Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Claude Jamet pour une interview qui va parler des collections et des collectionneurs. Bonjour, Claude Jamet.
Bonjour, Thibault.
Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour commencer cette interview?
Alors, écoutez, moi, je viens de la philatélie, c'est-à-dire de la collection des timbres, et même plus précisément de l'histoire postale, l'histoire de la poste. Par mes activités professionnelles, j'ai été amené, puisqu'à un moment donné, j'ai eu une boutique, à m'intéresser à peu près toutes les collections possibles et imaginables. Mais je reste quand même essentiellement dans le domaine du timbre.
D'accord. Oui, il faudra bien rester en face du micro pour bien que ça capte tout le temps. Voilà,
ah oui.
Super. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu brièvement ce que c'est la philatélie et pourquoi c'est apprécié par autant de gens?
Alors, si vous voulez, la philatélie, elle a plein d'avantages. Alors, si vous voulez, toutes les collections sont honorables. La philatélie a quand même des caractéristiques qui lui sont propres, à savoir que ce ne sont pas simplement des petits bouts de papier comme ça qu'on collectionne avec des jolies images dessus, mais ce sont des objets qui sont émis par des États, donc c'est un côté officiel. Le timbre aussi, ça a une utilité, puisque pendant très longtemps, même si aujourd'hui c'est un peu moins fréquent, ça a servi à la communication mondiale, c'est-à-dire le courrier. Et puis le timbre représente des sujets très particuliers puisque c'est choisi par des États. Donc vous avez, par exemple, si vous voulez connaître l'histoire des États-Unis, de l'Allemagne ou de la Thaïlande, vous regardez les timbres qui ont été émis par ces pays-là depuis le début et vous allez voir la chronologie, les personnages importants, les monuments importants, les événements politiques, sportifs, et donc vous allez voir tout ça là-dessus, quoi.
Et c'est quoi les critères importants lorsqu'on évalue un timbre? Savoir son état, sa qualité, sa valeur, comment est-ce que tout ça, ça se fait?
Alors en fait, on a souvent mis l'accent sur la rareté des timbres, sur la qualité des timbres, parfois beaucoup de contraintes. En réalité, on collectionne comme on veut. C'est-à-dire que on rassemble les timbres sur le sujet qui nous plaît, sur le pays qui nous plaît, et voilà, il y a pas de contraintes, quoi. En plus, il faut sortir de l'idée que les timbres ont une grande valeur. À 99%, les timbres sont très très communs. D'ailleurs, si c'est une collection qui est si répandue, hein, faut quand même pas oublier que c'est la collection la plus répandue dans le monde. C'est parce qu'en fait, on peut se procurer des timbres très 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 facilement. On peut ramasser des paquets de timbres, découper des timbres, des enveloppes qu'on reçoit. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reçoit de moins en moins de courriers. Et c'est vrai que de ce côté-là, si vous voulez, au niveau... À un moment donné, le timbre a été le vecteur de la communication dans le monde, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que de s'écrire. Donc ça a développé le commerce mondial, ça a développé les échanges comme ça entre les gens à travers le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'autres façons de communiquer. Et en fait, le timbre se retrouve un peu dans la situation, si vous voulez, des disques vinyles pour la musique. C'est-à-dire que c'est pas le support qui est au goût du jour, c'est pas le support le plus utilisé, mais ça reste un support de qualité. Et en particulier, il y a des amateurs qui préfèrent ce support-là, quoi.
Et justement, vous y voyez quel avenir, vous, à la philatélie, parce que, comme vous le disiez, on s'écrit de moins en moins. Donc, comment, pour vous, ça va se développer
Alors, ça va être une collection, comme beaucoup de collections. Un jour, ça va devenir une collection de niche. C'est-à-dire que, puisqu'il n'y a plus beaucoup de courriers, puisque la plupart des courriers qu'on reçoit ne portent pas de timbre, donc c'est vrai que ça va un petit peu tomber en désuétude. Donc, ça restera une collection de niche. Voilà. Disons, par des gens qui auraient un intérêt culturel à collectionner ces choses-là. Si vous voulez, toutes les collections sont honorables. Je vais quand même faire une petite distinction avec, parce qu'on est dans le domaine de la petite image, hein, sur un support papier. Quand vous avez des collections, genre un peu Panini, vous savez, ou les
cartes Pokémon,
voilà, des choses comme ça. Il faut voir qu'on est dans une entreprise privée qui émet des cartes en quantité dont elle a elle-même le contrôle. Donc, ils vont en faire, certaines, ils vont en faire à, à des dizaines de millions d'exemplaires, donc elles vont être très, très, très courantes, et puis d'autres à plus petits exemplaires, et puis certaines ils vont les faire à deux ou trois exemplaires pour créer une rareté. C'est pas ça dans le timbre. Le timbre, en fait, c'est émis par un État pour répondre à un besoin, qui reste quand même le besoin du courrier. Donc, en fait, quand un État émet des timbres, il y a toujours une quantité suffisante pour que ça réponde aux besoins et pour que tout le monde, tous les collectionneurs qui le souhaitent, puissent en avoir. Donc, en fait, il n'y a pas d'arrangement, de magouille, de choses qu'on crée. C'est-à-dire que si un timbre est rare aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un problème de fabrication ou une crise, une guerre qui fait que d'un seul coup, ce timbre est devenu très très rare.
Et du coup, ça lui rajoute de l'histoire en plus, dire qu'il a son histoire. S'il y en a pas beaucoup, c'est qu'il y a eu un problème et donc du coup, ça lui rajoute de l'intérêt.
Alors, la plupart des timbres ont une histoire. Soit ils la portent sur eux, c'est-à-dire que quand vous avez là, par exemple, la France a émis il y a pas très longtemps un timbre sur le colonel Bertram, qui s'est proposé de prendre la place
D'un otage.
Voilà, d'un otage et qui a laissé la vie. Donc la France aimait ce timbre. Eh bien, à un moment donné, la France raconte l'histoire de ce monsieur. Et la plupart des timbres racontent des histoires. Vous avez des personnages célèbres. Là, la Poste fait un effort, par exemple, pour sortir des timbres sur des artistes qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai que d'un seul coup, vous voyez un timbre, vous dites qui a fait ça. Et si vous vous intéressez un petit peu à ce qui est sur le timbre, d'un seul coup, vous-même, vous allez découvrir un artiste. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sinon, sur les histoires, c'est-à-dire les événements, les crises, etc., alors là, je peux vous en sortir 300. Parce que en fait, en temps de guerre, en temps de crise, en temps de... il se passe toujours quelque chose au niveau de la Poste, et donc au niveau des timbres, quoi, bien sûr.
Oui, je sais qu'il y a des timbres avec des messages qui avaient été écrits par la Résistance au dos des timbres qui étaient collés, ou il y a des timbres, ou même avec des messages cachés dessus... qui avait été fait pendant les guerres, des choses comme ça.
Alors, sur cet épisode précis, c'était un peu différent. C'est que les autorités allemandes et de Vichy, mais même à chaque fois qu'il y a des guerres, ceux qui ont la main sur la censure postale, n'aiment pas les timbres. Parce que effectivement, vous collez un timbre sur une lettre ou sur une carte postale, mais vous avez la possibilité d'écrire un petit message au dos, un petit message secret. Donc, en fait, pour éviter ces choses-là, en particulier en France pendant la dernière guerre, on fournissait aux gens des cartes sur lesquelles le timbre était déjà imprimé. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de possibilité d'inscrire ces messages-là. Et on trouve, disons, dans certaines circonstances, dans des gens qui étaient dans des camps, qui mettaient des timbres, effectivement, pour écrire à leur famille, rester en France, on voit que la censure avait arraché les timbres. Parce que, justement, elle pouvait cacher des messages.
Je vais revenir un petit peu sur vous. Est-ce que vous collectionnez une catégorie particulière de timbres qui peut être en référence à un pays, comme vous l'avez dit, ou à un thème, quelque chose? Est-ce que vous en avez une en particulier? Plusieurs, je m'en doute.
Alors, oui, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, tout m'intéresse. Donc ça, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que je ne suis spécialiste en rien. Je suis amateur de tout, mais spécialiste de rien. Alors moi, je m'intéresse en fait à l'histoire de la Poste. Parce que la Poste était justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'était une belle maison et c'est ce qui, au milieu du 19e siècle, a concouru au développement du commerce et des relations entre les gens. On n'imagine pas le nombre de gens, de lettres que les gens s'écrivaient à travers le monde. On avait très facilement, mais ça c'est jusque dans les années 2000, on va dire, jusqu'à ce que Internet fasse son effet à ce niveau-là, on correspondait avec le monde entier. On avait des correspondants dans le monde entier. Petite anecdote, on parle des pays de l'Est, hein, ce qu'étaient les démocraties populaires, donc qui étaient sous la coupe de l'URSS. Eh bien, à l'époque de l'Union soviétique, une des rares correspondances qui était autorisée, c'était entre philatélistes. Les philatélistes avaient la possibilité, même dans des moments les plus durs de l'Union soviétique, pouvaient échanger des timbres avec des gens de l'Ouest. Parce que c'était considéré là-bas comme une activité culturelle intéressante. En plus, ça pouvait faire rentrer des devises, donc ce n'était pas tout à fait négligeable. Et Voilà, donc en fait, dans les moments où le monde était parfois coupé en deux, les philatélistes avaient des contacts entre eux.
Oui, c'est très intéressant. Et donc, vous m'avez pas répondu sur la question de base. Est-ce que vous avez une collection dont vous êtes fier qui porte sur un thème?
Alors, non, en fait, moi, je m'intéresse donc effectivement plus à la poste.
À l'histoire postale.
Plus à la poste, voilà, qu'au timbre même. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, les périodes les plus intéressantes, ce sont les périodes de guerre.
Oui.
Et en particulier la Seconde Guerre mondiale. Parce que là, elle était vraiment mondiale. Et on peut trouver. Alors, si vous voulez, je vais encore faire une digression, mais.
Oui, allez-y, on est là pour
oui,
ça.
Oui, parce que ça me vient au fur et à mesure. La poste existe bon depuis vraiment en France depuis la Révolution française. Bon, avant c'était plus embryonnaire. Et en fait, la poste, elle a toujours suivi les grands événements. C'est-à-dire que si vous voulez suivre les campagnes napoléoniennes, vous allez trouver des lettres. Alors il n'y avait pas de timbre encore à l'époque, mais vous allez avoir un petit cachet dessus. Grande armée numéro 22, c'est-à-dire que c'était parce que la grande armée était de Napoléon il y avait des secteurs comme ça, et vous avez la correspondance des militaires qui sont allés en Russie, en Pologne, etc., qui sont allés à travers l'Europe. Et en temps de guerre, vous avez des marques de censure, vous avez des lettres qui ne sont pas autorisées entre certains pays. Voilà, quand les Allemands ont envahi la France en mai 40, la correspondance a été coupée. Donc, tout ce que les gens ont écrit, c'était retourné à l'envoyeur. Et puis, à l'inverse, par exemple, quand il y a eu la libération, tous les timbres qui étaient à l'effigie du maréchal Pétain, parce que le maréchal Pétain, il faut savoir que c'était le seul avec Napoléon III à avoir fait des timbres à son effigie. Toutes les lettres qui étaient donc affranchies encore avec des timbres à l'effigie du maréchal Pétain étaient refusées.
Et on se fait une petite pause musicale avec du John Lennon. Pour l'anecdote, il a été petit collectionneur de timbres dans son enfance et sa collection a été achetée plus de 30 000 euros en 2005 par le National Postal Museum de Washington parce que c'était Lennon.
Yeah.
est de retour et on reprend tout de suite l'interview. Et vous, dans votre collection, est-ce que vous avez, c'est quoi la plus vieille enveloppe? Du coup, je suppose que vous faites les deux, ou le plus vieux timbre que vous avez? Est-ce que vous avez à peu près, je suppose pas forcément la date précise, mais une période de temps?
Alors, le plus vieux timbre, je l'ai parce que c'est pas un timbre très rare. C'est un timbre anglais de 1840. Ce sont les Anglais qui ont inventé le timbre. Donc, voilà, là, c'est pas... Après, au niveau des lettres, ce que j'ai de plus ancien, oh, 18e siècle sur... Oui, non, 18e siècle. Fin 18e, bah, à l'époque de la Révolution.
Ouais, vous dites qu'avant, c'était un peu embryonnaire. Du coup, ça doit être difficile de trouver des choses plus anciennes.
En fait, la poste s'est organisée à partir de la Révolution, ce qui fait qu'avant, le courrier passait, mais il n'y avait pas de... La poste ne mettait pas ses marques sur les lettres. Donc, on ne sait pas très bien par qui, par quoi, comment ça circulait. Alors que là, à partir de la Révolution, il y a des cachets de la poste qui permettent de déterminer d'où vient la lettre et éventuellement où elle est arrivée.
D'accord. Et comment on entretient et comment on protège une collection de timbres et d'enveloppes? Parce que c'est quand même assez fragile, c'est du papier à l'origine. Comment est-ce qu'on protège ça de l'humidité? Comment
Alors,
ça se passe?
Oui, le principal adversaire, c'est effectivement l'humidité. Pour des gens qui collectionnent les timbres, alors là, vraiment, les timbres, je reviens sur les timbres, et en particulier, vous savez, les timbres qui sont tout neufs, c'est-à-dire qui ont été achetés à la poste et qui sont mis comme ça dans un album ou un classeur, le pire ennemi avec l'humidité, c'est le manque d'air. C'est-à-dire que si vous mettez des timbres comme ça dans un album et que vous le laissez comme ça pendant 3 ans dans votre bibliothèque sans jamais ouvrir votre album, vos timbres risquent de se marquer de petites taches brunes qui sont faites par des champignons qui se développent justement en l'absence d'oxygène.
Et ça s'appelle comment, ce phénomène?
Alors, on appelle ça, globalement, on appelle ça les taches de rouille.
D'accord. Hein, voilà. Et donc, il faut aérer régulièrement sa collection?
Absolument. C'est-à-dire que quand vous avez une collection de timbres, il faut de temps en temps, il faut la regarder tous les 3 mois, 4 mois, enfin voilà. Et il faut tourner les pages pour qu'elles prennent l'air.
C'est original comme phénomène.
Oui, oui, absolument. Il faut que les timbres prennent l'air.
En termes de diversité de timbres, de beauté de timbres, c'est quelle région du monde qui, selon vous, fait ce qu'on trouve de mieux? Est-ce qu'il y a des timbres qui sont remarquables dans certes? Par exemple, est-ce qu'on se dit, tiens, en Thaïlande, ils font particulièrement des beaux timbres sur telle période?
Alors... ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le timbre révèle les styles et les partis pris de chaque pays, de chaque région, qui sont effectivement très, très différents. C'est-à-dire qu'un timbre, tout à l'heure, je vous parlais de la Thaïlande ou du Cambodge, n'aura pas la même tête qu'un timbre allemand, où, vous voyez, où il y a plus de rigueur, où il y a un peu moins de fioritures, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le timbre montre bien les styles et qui sont propres à chaque pays, à chaque région. Alors moi, j'ai un petit... Là-dessus, j'ai un petit coup de cœur, c'est sur les timbres anglais. Parce qu'en fait, ils ont été les premiers à faire un effort de mise en page des timbres et à trouver comme ça, c'est-à-dire que quand ils... je me souviens, par exemple, d'une série sur les automobiles. Au lieu de montrer l'automobile comme ça, de face ou de profil, un peu bêtement, ils prenaient juste un détail, mais un détail significatif de l'auto. Donc ça remonte à loin, ça remonte à 50 ans. Donc en fait, ils ont été précurseurs. Voilà, aujourd'hui, depuis, même dans la presse, dans la publicité, ça se fait beaucoup. Mais au niveau des timbres, les Anglais ont été assez précurseurs. Ils avaient une vraie campagne esthétique, de design et de cohérence. Voilà. Et d'originalité, parce que les Anglais sont toujours originaux.
Donc c'est un peu les précurseurs, déjà, ceux qui sont précurseurs dans la création du timbre.
Oui.
Et en plus, ils sont aussi précurseurs dans la manière de l'illustrer, d'en faire... un peu une œuvre d'art minimaliste.
Absolument. Ouais, ouais.
D'accord. Eh ben, on salue les Anglais pour ce travail.
ouais, on les salue pas pour tout, mais pour ça un peu, quoi. Ouais.
C'est quoi les événements et les expositions incontournables pour un philatéliste, au moins en France, et peut-être éventuellement une ou deux dans le monde, peut-être aux États-Unis ou alors en Angleterre?
Alors, globalement. Alors là, je vais plutôt parler de l'Europe, parce que dès qu'on s'éloigne de l'Europe, je connais moins bien. Il faut savoir que nos voisins sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus collectionneurs que nous. D'ailleurs, c'est pas seulement sur les timbres, mais sur plein de choses. Et donc, en fait, il y a beaucoup d'événements, en particulier en Grande-Bretagne, en Italie. Les Italiens sont de très grands collectionneurs, ils adorent collectionner. En Allemagne, c'est un peu mieux que nous. Donc voilà, il y a beaucoup d'événements comme ça dans ces pays-là. En France, il y a au moins un rendez-vous. Alors il y a deux rendez-vous. un salon d'automne qui a lieu en général dans le week-end, je crois, à cheval du 11 novembre, qui a lieu à Paris. Et un autre qui doit être au mois de mars. Voilà, ce sont deux grands rendez-vous. Mais voilà, en fait, les rendez-vous philatéliques sont plutôt locaux. Et alors, le grand, oui, quand même, si j'oublie quand même le principal, le grand rendez-vous, c'est la fête du timbre. Et alors, en fait, la fête du timbre, c'est un système particulier. Ce sont les associations locales qui font l'événement de manière locale, mais c'est chapeauté par la fédération de philatélie. Et Évreux, pratiquement chaque année, participe à cet événement qui, ces derniers temps, a lieu au mois de mars. Mmh. Et donc là, nous avons fait, au mois de mars, nous avons organisé la fête du timbre sur deux jours à la Halle des Expositions.
Donc c'est un peu une convention, chacun vient avec ses classeurs, on fait des échanges, on montre un peu, on partage des connaissances.
Alors, non, ce sont des manifestations non commerciales. Le but, c'est plutôt des expositions. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, les adhérents de chaque association présentent leur travail, leur collection. Alors, vous avez, je sais pas, vous pouvez montrer des timbres sur les champignons, des timbres sur les automobiles, des timbres sur la Belgique. Enfin, voilà. Donc, chaque collectionneur a son thème. Alors, à Évreux, parfois, on le fait dans l'année. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est du vite fait. Ce qui montre d'ailleurs que finalement c'est relativement souple et relativement facile à faire. On essaye parfois de le faire en fonction du sujet retenu par la Poste, parce que c'est la Poste qui décide du thème de son thème, parce qu'elle émet des timbres. Donc les timbres à chaque fois ont un thème particulier. Donc on essaye qu'il y ait au moins une collection qui illustre ce thème.
Du coup, vous savez que sur Évreux, il y a quelqu'un qui collectionne particulièrement les timbres sur les voitures, quelqu'un qui collectionne particulièrement les timbres.
Hein. Alors non, justement, c'est ça qui est assez assez extraordinaire, c'est que il y a quelqu'un, des personnes dans le club qui décident de dire, bah moi je vais faire la collection, mais ils démarrent de zéro, c'est-à-dire que ils savent qu'on commençait un peu plus d'un an à l'avance quel sera le sujet. Eh bien, on a une année pour faire la collection. Alors on fait quelque chose qui est pas très prétentieux, enfin qui est parfois un peu succinct, mais au moins on illustre le thème. Ce qui montre que c'est finalement facile de s'y mettre et de en une année de présenter un ensemble cohérent.
D'accord. Comment le philatéliste il se tient au courant, informé des sorties? Il y a des revues, quelques sites internet de référence? Qu'est-ce qui se fait de mieux en termes d'informations sur le timbre?
Alors, si vous voulez vous tenir au courant des événements et de ce que la Poste va émettre, là, vous avez Internet. Vous avez notamment le site de la Poste.
Vous allez sur quel site, vous, quand vous dites, tiens, il faut que je regarde
Alors, il y a un site qui est particulièrement bien fait, qui s'appelle PhilOuest.
D'accord.
Et qui, parce que l'intérêt, c'est qu'à la fois, il vous donne les prochains événements, les sorties de timbres de la Poste, mais il parle aussi du passé, et il a, en son sein, il a tous les timbres émis par la France depuis le début. Donc, c'est vraiment une source d'information intéressante. La présentation est un peu rude, un peu austère, mais les informations y sont.
Il y a aussi des sites encyclopédies où, comme ça, tiens, moi, admettons, demain, je trouve un timbre, je veux savoir d'où il vient, soit je me retourne vers des experts des associations, ou est-ce que je peux taper, par exemple, sur un site, tiens, j'ai un timbre, il est rouge, il y a marqué 2006 et on voit un champignon dessus.
Ouais.
Il y a des sites dessus, il y a des sites comme ça spécialisés, des archives.
Ouais. Alors, il y a des catalogues papier qui continuent d'avoir du succès, hein, qui sont. Alors, pour la France, c'est pas mal d'avoir le catalogue papier parce qu'en fait, sur ce catalogue-là, vous avez absolument tous les timbres de France émis depuis le début, c'est-à-dire 1849.
Il doit faire une sacrée taille, le catalogue.
Oui, 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 il prend un peu d'ampleur chaque année, malheureusement, parce que la Poste n'a pas oublié d'émettre de nouveaux timbres. Oui, elle sait qu'il y a toujours des gens là qui sont là pour les acheter. C'est quand même tout bénéfice, c'est-à-dire que vous émettez un petit bout de papier sur lequel il y a marqué 1,16 €, hein, c'est le prix c'est le prix de la lettre. À fabriquer, ça ne vous revient à pas grand-chose. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter 1,16 € et qui va pas utiliser le service qui est derrière, c'est-à-dire de transporter une lettre, hein, parce qu'1,16 €, ce que vous payez, c'est le prix d'un service. Et donc, il va mettre le timbre dans son album. Donc ça, c'est plutôt d'un bon rapport, quoi. Ouais. Donc il y a ce catalogue papier.
Qui s'appelle comment ?
Alors, c'est le catalogue Hiver et Tellier.
Qui est édité tous les ans, du coup.
Voilà, tous les ans, on le trouve dans beaucoup de librairies, quand même, quoi. Voilà. Et puis sinon, pour avoir comme ça des renseignements de tout ce qui a été émis dans le monde, il y a un site qui est très très bien fait, qui s'appelle Colnect. D'accord. Alors c'est Colnect, je crois. Et là, vous avez absolument tous les pays du monde, et vous pouvez trouver année après année tout ce que les pays ont émis.
D'accord. On va faire une dernière question. Est-ce que vous avez, vous, une anecdote à raconter sur un timbre qui a une histoire derrière qui est particulière ?
Oui, on peut reprendre le sujet parce qu'en fait, là, on parle beaucoup on a parlé du roi Charles d'Angleterre, qui a attendu un peu longtemps de prendre la suite de sa maman. C'est pas un épisode tout à fait inédit puisque en 1901, alors là, il faut savoir qu'en Angleterre, la reine Victoria c'est elle qui a eu le premier timbre. Le premier timbre au monde était à l'effigie de la reine Victoria. Elle était montée sur le trône en 1837 et le timbre est paru 3 ans après. Et donc, elle a régné jusqu'en 1901, jusqu'à son décès en 1901. Donc, son fils, Édouard VII, a attendu 1901 pour...
60 ans.
Voilà, il attend. Alors, lui, c'était 64 ans. Bon, il avait 60 ans quand il est monté sur le trône, mais 60 ans, 1901, c'était un âge quand même bien, bien avancé. Et en fait, en 1910, la Poste britannique avait prévu d'émettre un timbre de 2 pence à son effigie. Il en avait déjà plein, mais là, il renouvelait la série. Et le timbre devait sortir le 6 mai 1910. Et en fait, il y a quelqu'un donc de la poste qui, pour faire plaisir au prince de Galles, donc au fils de roi, a la veille, donc le 5 mai, a utilisé un timbre, l'a mis sur une lettre et l'a expédié au prince de Galles. C'était donc le 5 mai et la lettre est arrivée le 6 mai, le jour où officiellement les timbres étaient mis en vente. Le problème, c'est que le 6 mai, le roi est mort.
Ah.
Voilà. Donc, en fait, les timbres n'ont pas été mis en service parce que c'était inutile. On savait qu'on allait avoir un nouveau roi, donc pas question de mettre le timbre en vente. Donc, en fait, il n'existe qu'une seule lettre.
D'accord. Tous les autres timbres ont été supprimés, ont été détruits ?
Alors, il y en a... Bon, il y en a peut-être une petite dizaine.
D'accord, de connus.
Oui, qui ont un petit peu échappé à la destruction. Ça arrive régulièrement. Dont 3 sont dans la collection royale d'Angleterre. Et donc, le prince de Galles était le seul à avoir une lettre.
Le seul détenteur.
Affranchi avec ce timbre. Et il faut savoir que donc, ce prince de Galles, à partir du 6 mai 1910, est monté sur le trône sous le nom de George V. Et ce roi qui était philatéliste a créé la collection royale d'Angleterre, qui est aujourd'hui la collection de timbres la plus riche, enfin la plus complète au monde.
Dans laquelle, du coup, il a mis sa lettre affranchie unique au monde.
Eh ben oui, il a pas fait cadeau. Non. Elle est dans la collection royale.
Bon, eh ben, on touche à la fin d'une belle demi-heure d'interview. Et merci encore à vous, Claude Jamet, c'est la fin de cette interview.
Ben merci à vous.
J'ajoute qu'on peut retrouver le Club Philatélite sur Facebook avec Club Philatélique Hébroïcien, dans lequel vous serez informé de quelques sorties de timbres ainsi que tous les rassemblements. Allez, à la prochaine.